Nous sommes à partir en livre à Pont-Vallin où a lieu une animation rentrant dans le cadre de cet événement à caractère national auquel s'associe la communauté de communes Sud-Sarthe. Et je ne vais pas dire la vedette, mais bon, ça y ressemble, l'invité d'honneur de l'animation prévue donc ce 1er juillet 2023 à Pont-Vallin. C'est bien sûr Solène Chartier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Prévert pour parler de ce que vous avez fait au cours de cette animation. On a enregistré l'atelier que vous avez organisé avec de jeunes enfants. C'est peut-être des graines d'écrivaines et d'écrivains, on va dire ça comme ça. Pour, dans quelques années, l'histoire retiendra qu'une de leurs premières rencontres avec le livre, eh bien, elle s'est faite avec vous. Mais c'est un pari pour l'avenir. L'essentiel de cet entretien va vous être consacré. Et comment vous présenter aux auditeurs, puisque c'est vous qui êtes l'élément central de l'entretien, vous avez la parole. Qui est Solène Chartier ?
Alors, enchantée et puis ravie de participer à cette édition. Alors, Solène Chartier, bah, c'est moi. Donc, Solène Chartier, donc, autrice de fantasy. J'écris des romans et des albums jeunesse. Et aujourd'hui, l'atelier tourné autour de ma trilogie La Laïcha. Au niveau de l'écriture, donc ça fait quelques années que je suis autrice, que j'écris. J'ai commencé à écrire au lycée, quand finalement jouer avec ma sœur et co-inventer des histoires nous est devenu plus compliqué. Donc c'est là où ça a vraiment démarré. Et depuis, donc, un univers se développe dans mon esprit et prend forme et finalement prend vie à travers mes différents romans et albums.
Alors, vos différents romans et albums destinés à quel public ?
Alors, ça dépend. Pour La Princesse et les Papillons, qui est le petit nouveau, il s'adresse à un public de lecteurs à partir de 7 ans en lecture autonome, puisque c'est un conte, mais illustré. Pour La Laïcha, donc Amalia et Yuna, il s'adresse à des lecteurs, mes plus jeunes lecteurs ont 9 ans, et globalement des lecteurs plutôt ados, même si quelques adultes prennent leur plaisir aussi à lire mes histoires.
Alors le fait de vous dire, tiens, il va falloir que j'invente des histoires, et vous avez dit que l'acte de créer des histoires est arrivé après cette bascule où vous sortiez, on va dire, de cette étape où vous étiez avec votre sœur, vous avez arrêté de jouer. Hein. Voilà, on va dire les choses de façon très claire. Donc, le fait de faire cette bascule-là, est-ce qu'il y a eu des influences ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont guidé et qui vous ont conforté dans cet acte d'écriture ?
Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand on a finalement effectivement arrêté de jouer ensemble, ce qui s'est passé, c'est que le besoin d'inventer des histoires était toujours là, en fait, était toujours présent. Donc il a fallu que ça s'exprime d'une manière différente. Dans mon cas, ça s'est exprimé par l'écriture. Voilà, une histoire dans ma situation arrive de plein de manières différentes, mais surtout en rêve, sous la douche ou autre. Et quand une histoire arrive, il faut bien que je l'écrive. Donc la première chose que je fais au réveil souvent, c'est sortir mon crayon et mes fiches et noter l'idée que j'ai eue. À partir de là, effectivement, l'histoire prend forme, elle naît et puis elle évolue beaucoup. Que dire de plus ?
C'est déjà pas mal. Et nous parler aussi de vos influences. Est-ce qu'il y a eu des influences qui vous ont permis de vous initier à cet art d'écriture ?
Alors, j'ai commencé à écrire toute seule. C'est pas adolescente que j'ai fait des ateliers d'écriture, c'est plutôt arrivé dans les études supérieures où j'ai découvert ça à travers des cours. Par contre, au niveau d'influence d'auteur, oui, beaucoup. En fait, mon travail d'écriture se nourrit de nombreuses influences. Je pense notamment à Eragon, une série de fantasy bien connue, à la série de fantasy française également, Tara Duncan, toutes ces séries en fait m'ont nourrie adolescente, Et on finalement nourrit ce vivier de créativité en fait, qui grandit en moi. Donc on retrouve dans mes histoires des dragons, on retrouve de la magie qu'on peut aussi retrouver donc, dans ses œuvres. Bon, je pense à Narnia aussi, évidemment. Donc toutes ces grandes œuvres de fantasy me nourrissent. C'est d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, quelque chose que soulignait ma mère, donc une de mes premières lectrices, qu'effectivement, mon style se nourrissait vraiment beaucoup de celui de Sophie Audouin-Mamikonian, par exemple, qui a écrit Tara Duncan, et que, au début de l'écriture, en fait, on se nourrit vraiment réellement, finalement, de tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on écrit, on finit par se distancier de ça pour trouver notre propre style. Et c'est aussi ça, en fait, l'intérêt de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de montrer que finalement, on peut inventer des histoires, tout le monde peut le faire, et qu'effectivement, l'écriture, c'est un travail de longue haleine. Donc, on a une idée, on a une histoire, et après, on a tout un retravail pour trouver ce qui nous fait avancer, nous, personnellement, et comment on a envie de le faire vivre au lecteur.
Merci de m'offrir cette excellente transition. Comment faire vivre cette histoire au lecteur? Forcément, peut-être à travers des personnages. Et comment on pense à des personnages? Comment on crée des personnages? Ça ne doit pas être facile, Solène Chartier.
Alors, c'est une vaste question. C'est une des questions qu'on a abordées dans cet atelier, justement. Comment on crée des personnages? Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Moi, mes personnages m'apparaissent beaucoup en rêve. C'est d'ailleurs souvent, eux, le point de départ de mes histoires. Souvent, je pense à un personnage, enfin, je rêve d'un personnage. En me réveillant, du coup, finalement, plus encore d'éléments m'apparaissent. Donc souvent, j'ai son physique, j'ai un élément clé sur ce personnage, mais en y réfléchissant plus encore, il se délivre à moi, finalement. Il y a beaucoup de manières, après, de créer des personnages. Donc là, pour le héros, c'est assez simple. Mais à partir de ce personnage-là, finalement, une histoire naît aussi. Et à partir de cette histoire, par exemple, dans le cadre d'Amalia, Lisbeth, mon héroïne, m'est apparue assez facilement. Je savais déjà, finalement, en réfléchissant à mon histoire, qu'elle serait le double d'une princesse, donc la princesse Amalia, donc un deuxième personnage apparaît. Comment on les crée ensuite? C'est par rapport aussi à l'histoire. Dans mon histoire, pourquoi Lisbeth était ce double de princesse, il faut systématiquement trouver une raison finalement, parce que sans problématique, il y a difficilement d'histoire. Donc une histoire, c'est une liste de pourquoi. Pourquoi Lisbeth remplace la princesse? Eh bien parce que la princesse est malade. Dans Yuna, pourquoi Yuna part à l'aventure? Eh bien parce que sa mère a disparu. Donc à nouveau un nouveau personnage. Pourquoi finalement? Comment elle fait pour en découvrir plus, à travers différents personnages. C'est comme ça que naissent en fait aussi les personnages amis, donc qui lui apprennent différentes choses sur elle aussi et sur l'univers, sur l'histoire. Donc ça lui apprend des choses sur la magie, ça leur apprend des choses sur l'aventure, sur l'univers, sur des phases qu'elle connaît peu finalement actuellement, puisque mes héroïnes ne savent pas tout au début de l'histoire. Et chaque personnage va nourrir ça. Donc chaque personnage est créé avec des fêlures, avec des forces aussi, et avec une propre histoire aussi qui se crée au fur et à mesure, quoi. Donc c'est vraiment une réflexion profonde.
Alors on va faire un tir groupé. Jusqu'ici vous avez trois livres. Le premier, La princesse et les papillons. Quel est le contexte? Quelle est l'histoire? Quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers La princesse et les papillons? Et puis on va faire pareil pour les deux autres aussi.
Alors, pour La princesse et les papillons, La princesse et les papillons, c'est une des premières histoires, effectivement, que j'ai écrites. C'est d'ailleurs une histoire que je rends disponible sur Amazon au format texte gratuitement et où j'ai eu beaucoup de lecteurs. Mais c'est une histoire qui, finalement, que j'ai réanalysée assez récemment, quand finalement je l'ai fait naître au format papier, justement sur le pourquoi, parce que la fin originale de cette histoire était bien différente de l'actuelle. Et j'ai retravaillé du coup cette fin l'année dernière, avec justement cette réflexion autour du pourquoi cette histoire. Quand je l'ai écrite, je répondais à un défi d'écriture qui était écrivez un conte avec des papillons pour les enfants. Donc moi, cette histoire m'est venue naturellement à partir de ça. Mais finalement, la fin, j'avais laissé une fin totalement fantaisiste et totalement ouverte, qui convenait à plein de lecteurs, mais beaucoup de lecteurs se disaient assez frustrés de cette fin ouverte et voulaient une fin plus fermée, avec plus de morale. Alors moi, j'adore les fables de La Fontaine qui contiennent une morale, et je me suis dit, en effet, que faire autour de ça ? Et c'est là où finalement, je me suis rendu compte que cette histoire, toutes les histoires remuent quelque chose en nous, hein, personnellement. C'est souvent une certaine forme de psychanalyse. Hein. Et moi, j'ai très longtemps été assez embêtée par ma taille, parce que pendant très longtemps, je me suis considérée comme petite par rapport aux autres. Et là, dans La Princesse et les Papillons, ma princesse, elle a 5 ans, elle mesure 2 mètres de haut. Donc, au contraire, elle est beaucoup plus grande que les autres et elle leur fait un peu peur. Et justement, elle est un peu triste de tout ça, au contraire, en fait. Elle est triste de sa différence. Et justement, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette histoire, c'était vraiment une histoire autour de la différence et de l'acceptation de sa différence. Parce que finalement, on est tous différents des autres, mais ce qui fait notre force, c'est comment on accepte cette différence par rapport aux autres et comment on en fait une force.
Merci pour cette réponse très exhaustive, très complète en ce qui concerne La Princesse et les Papillons. Donc vous l'avez dit, vous l'avez rendu disponible gratuitement sur Amazon. Et puis le fait de changer la fin, est-ce que ça change quelque chose par rapport à cette gratuité que vous avez mise sur Amazon ?
Alors non, pas vraiment, ça change pas le fait que je laisse gratuitement. En fait, ce qui change, c'est que le texte est disponible gratuitement, mais par contre, il y a toute une version enrichie d'illustrations. J'ai travaillé avec une illustratrice, donc Christelle Ponche, qui a fait un travail merveilleux, et c'est cette version illustrée qui, du coup, est payante, en fait.
Merci pour la précision, et même exercice, on va commencer par la Laïcha, je sais pas si je prononce bien.
Oui.
La Laïcha, le tome 1, c'est Amalia. Vous avez commencé par en parler, mais bon, on va refaire l'histoire à l'envers. Comme pour La Princesse et les Papillons, la genèse, l'histoire, les personnages principaux, vous avez commencé à nous les donner. Bon, mais petit exercice de rappel.
Donc, dans Amalia, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lisbeth, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui joue depuis toujours le double de la princesse Amalia, qui est donc trop malade, en fait, pour jouer son rôle. Donc, tout le monde ignore ça. Hein. Le peuple n'est pas au courant. Il y a juste la reine, le roi et puis une servante qui sont au courant. Donc, Lisbeth joue son rôle, finalement, a fait une croix sur sa vie jusqu'au jour où elle découvre qu'elle a son propre destin à mener et qu'elle est bien plus qu'un simple double de princesse. Ça, c'est vraiment l'idée de base. Et dans la Laïcha, donc, effectivement, vous l'aviez bien prononcé. donc, dans ma trilogie, on a vraiment un intérêt autour de, justement, de cette question de prise de pouvoir sur sa vie. Donc mes héroïnes, finalement, subissent ou vivent une situation... dans Yuna, c'est très différent, mais en tout cas, pour Lisbeth, elle subit une situation qui ne lui convient pas spécialement, mais dont elle s'accommode. Mais en fait, elle décide finalement que oui, qu'elle a bien plus que ça à jouer et qu'elle a son propre destin à mener. Donc mes héroïnes, leur point commun, c'est vraiment ça. C'est leur prise de conscience de, justement, de leur histoire et de leur... de leur destin, en fait, de leur vie à mener, ce qui est le cas de tout le monde. On est tous le héros de notre histoire, en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant.
Et là, je relève que vous parlez de héroïne. C'est à dessein ?
Alors, en fait, c'est volontaire et pas volontaire, et involontaire à la fois. C'est que, comme je disais, les histoires démarrent par les héroïnes qui me viennent en rêve, et donc c'est souvent des femmes. Il n'empêche que j'ai des héros super importants. Donc, par exemple, vous me demanderez bientôt le même exercice sur le tome 2, donc je vais tout de suite le faire. Ça va aller plus vite. Pour le tome 2, c'est une histoire très différente. D'ailleurs, mes deux premiers tomes de cette trilogie peuvent être lus dans un sens comme dans l'autre, puisque c'est deux histoires bien indépendantes. Dans le tome 2, on suit Yuna. Yuna, elle vit paisiblement avec sa mère au cœur de la forêt de Saphir, qui est une forêt d'arbres animés et un peu dangereux. Jusqu'au jour où sa mère disparaît, en fait, dans une grande explosion. Mais personne ne sait ce qui lui est arrivé. Hein, voilà. Donc, elle part à sa recherche. Et en fait, sur le chemin, donc, elle part avec sa meilleure amie qui s'appelle Mali, Saphir, qui est la princesse de cette ville. Et donc, elles vont vivre des aventures aux côtés d'autres personnages amis de ces personnages-là, puis pas que, ennemis aussi. Et donc, elles vont découvrir des personnages, notamment des personnages masculins. Donc, dans le cadre de Yuna, par exemple, moi, je le dis souvent, mais mon personnage chouchou de mes histoires actuelles, c'est justement un personnage masculin. Il s'appelle Robin. Vous le découvrirez dans Yuna, et c'est un personnage en fait qui, enfin, je crois que c'est le personnage que je fais le plus souffrir en fait de ma trilogie, mais je crois que c'est pour ça que je l'aime, qui aime bien châtie bien. Et là, c'est vraiment le cas. C'est malheureusement un personnage que je fais beaucoup souffrir, qui souffre d'une forme de monstruosité. Mais justement qui le vit très mal en fait. Et sauf que moi, avec mes yeux et nous, avec nos yeux de lecteur, c'est pas un monstre en fait. C'est juste que son corps se rebelle contre lui en fait. Un peu comme une maladie auto-immune. Son corps se rebelle totalement contre lui. Et donc en fait, il en souffre. C'est, malheureusement, il a pas le choix. Hein, c'est la vie. Et donc voilà, c'est mon chouchou. Mais dans les histoires que j'écris et qui viendront, c'est pareil. J'ai une histoire à venir, où finalement deux personnages sont très importants et le personnage masculin est presque aussi important que l'héroïne. Maintenant, voilà, en fait, c'est un choix, oui et non. C'est un choix parce que d'un côté, en fantasy, je trouve qu'on manque encore beaucoup d'héroïnes. Mais c'est un choix qui n'est pas spécialement volontaire dans le sens où, de toute façon, mes personnages me viennent en rêve. Donc c'est un peu, c'est à la fois malgré moi et voulu, quoi.
Et vous avez parlé de trilogie, et moi j'ai dit Amalia pour le tome 1, et Yuna, vous l'avez dit, pour le tome 2 de La Laïcha. Donc la troisième partie, ce sera quoi?
Eh ben, je ne sais pas encore. En fait, pour être totalement honnête, le titre est ce qui me pose le plus de problèmes quand je veux publier un livre, parce que trouver un titre, c'est pas si évident. En trouver un, en tout cas, qui spoile pas tout à fait les tomes précédents, c'est vraiment pas évident. Donc, pour l'instant, je sais pas encore si ça sera pas simplement Lisbeth et Yuna. Mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui lie un peu plus mes deux personnages découverts dans les deux premiers tomes, sans pour autant tout dévoiler. Donc ça sera peut-être tout simplement aussi les Laïcha. Voilà. Le titre n'est pas encore posé, effectivement. Par contre, du coup, bah, mes deux personnages, effectivement, se retrouveront, puisque d'une manière ou d'une autre, elles sont mêlées, en fait. Donc je ne veux pas dire de laquelle, je vous laisse le découvrir, mais c'est à venir dans le tome 3.
Et ce sera quand? Vous avez idée de la période au cours de laquelle ce tome 3 va sortir?
Alors là, il est en pleine repasse par mes alpha lectrices. Ensuite, j'ai de nombreuses phases de réécriture, mais l'histoire est posée. Donc ça sera, je l'espère, l'année prochaine, en 2024.
Est-ce que votre sœur fait partie de vos alpha lectrices, Solène Chartier?
Oui, ma sœur et ma mère. En fait, j'ai en lectrice avant publication, j'ai 4 lectrices, donc pour 2 phases bien différentes. Donc l'alpha lecture qui arrive après l'écriture du premier jet et une première réécriture de ma part. Donc là, c'est mes alpha lectrices. En fait, leur rôle, c'est de me dire bon, bah, ton histoire tient debout ou elle tient pas debout. Hein. Tel personnage, on peut pas le supporter. À tel endroit, bon, bah, ça manque cruellement de détails. Parce que souvent, moi, j'ai l'histoire en tête, donc je m'en rends pas compte. Donc ça, c'est vraiment leur rôle. Moi, après ça, je réécris intégralement l'histoire, une ou deux fois. Et puis ensuite, je l'envoie à des bêta-lectrices. Donc mes bêta-lectrices, c'est une amie à moi et puis une de mes cousines, qui sont de grandes lectrices de fantasy également. Et elle qui critique réellement, presque ligne par ligne, à la fois le style, l'histoire, et puis certains préjugés aussi que j'aurais laissé passer finalement.
Donc il y a une sorte de retrouvaille avec votre sœur, puisque on le disait au début de cet entretien, hein, il y a eu une sorte de passage en solo, chacun a continué sa vie, vous êtes sorti de la période de l'enfance et à l'adolescence, hein, puisque vous avez commencé à vous intéresser à cet art de l'écriture très jeune. Alors, pour la suite, forcément, il va y avoir ces projets que l'on a les uns et les autres. Est-ce que vous, c'est pour vous singulariser dans ce style-là, la fantasy? Ou est-ce que vous projetez d'élargir votre palette à d'autres genres? Solène Chartier, invitée de Radio Prévert.
Alors, c'est une bonne question également. Alors, tout ça, ça rejoint effectivement aussi à nouveau le côté rêve, finalement, c'est que je prends ce qui vient à moi. Mais non, je pense pas rester uniquement dans de la fantaisie. En fait, c'est ce qui me nourrit le plus parce que c'est aussi ce que je lis le plus. Moi, j'ai un vrai besoin de rêve, en fait, et de plus loin. Donc, c'est beaucoup de la fantaisie qui me nourrit, mais je me suis déjà essayée à d'autres genres et je pense que ça ne s'arrêtera pas là parce que j'ai une certaine frustration de ne pas avoir réussi à finir certains projets. Je me suis essayée notamment au genre de la romance il y a quelques années et c'était un échec total. Mais en fait, chaque échec fait vraiment grandir. Comme dans tout, en fait, dans la vie, chaque échec fait grandir. Et mon échec en romance m'a fait comprendre que on n'écrit pas de la romance comme on écrit de la fantaisie. Moi, la fantaisie, je commence par, comme je le disais, mes personnages principaux, puis ensuite l'univers et puis l'histoire. La romance, c'est en tout cas de ce que j'ai pu découvrir actuellement, et je pense que je n'ai pas encore tout découvert, mais la place des personnages est prépondérante et l'histoire se base vraiment sur eux aussi. Et du coup, moi, j'ai commencé à écrire ma romance comme j'écrirais une fantaisie, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, donc en fait... À chaque échec, finalement, mais l'échec, c'est un gros mot en France, mais là, c'est vraiment pas le cas. Chaque échec fait grandir, mais reste une certaine frustration qui fait que j'ai vraiment envie d'essayer d'aller plus loin, effectivement, et puis de me réessayer à d'autres genres, mais en fonction des histoires que j'aurais envie de véhiculer à ces moments-là, quoi.
Et est-ce que vous prenez des cours pour écrire, puisque vous évoquiez des échecs? Est-ce que ces échecs, c'est vous qui les identifiez, ou alors ce sont vos alpha ou bêta lectrices, hein, dont vous parliez à l'instant, qui vous indiquent que, ah oui, là, non, on n'est pas dans la même veine que ce que vous faites en matière de fantasy? Est-ce que ça a été le cas? Je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de questions qui me viennent encore.
Alors pour ma romance, non, en fait mes alpha lectrices ne l'ont même pas vu de loin.
Donc le premier tri c'est vous-même.
C'est ça, le premier tri c'est moi-même. Alors je me forme pas nécessairement à l'écriture, enfin si, je me forme à l'écriture mais de façon assez continue finalement. Je pioche des conseils aussi auprès d'autres auteurs. Mais je ne suis pas de formation active, mais effectivement, je pioche des conseils parce qu'on apprend à écrire avec soi-même, avec ses lecteurs aussi. J'ai beaucoup évolué entre l'écriture d'Amalia et d'Yuna, par exemple, grâce à mes lecteurs. J'ai évolué aussi grâce à mes alpha et bêta lectrices, en effet, mais le premier tri, ça reste moi qui le fais. Et ma romance, en l'occurrence, je ne leur ai même pas fait l'affront de leur proposer, puisque moi-même, je suis bien consciente qu'elle ne vaut pas ce coup à l'heure actuelle. Je ne désespère pas de leur proposer un jour, mais en tout cas, en l'état, elle ne mérite pas ce regard. Mais pour une histoire, par exemple, je suis en train d'écrire un one-shot dans le même univers que la Laïcha actuellement. J'ai commencé à l'écrire en 2020 et je ne désespère pas de le voir publié un jour, même dans peu de temps si tout va bien. Je sentais en fait justement une sorte de limite que j'avais. Donc je savais que j'avais pas toutes les clés en fait en 2020 pour finir cette histoire comme je voulais la finir. Je savais que j'avais pas tout ce qu'il me fallait. Et du coup, au contraire, il y avait une très bonne base. Je savais qu'il manquait quelque chose, de la saveur, hein, et je savais pas d'où ça venait. Et donc je l'ai fait lire à mes alpha lectrices, à mes bêta lectrices qui m'ont fait des retours, mais j'étais toujours frustrée parce que je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose. Et c'est pendant un webinaire d'une autrice auto-éditée également que j'ai compris en fait ce qu'il me manquait. Et là en fait, ça fonctionne beaucoup en termes d'illumination. Hein. Là j'ai l'impression d'avoir une illumination et de me dire oh, « mais c'est ça, c'est vraiment ça ». Du coup j'ai réécrit intégralement les trois quarts de mon histoire parce que voilà, il y avait un problème de fond. Et que justement, j'ai réussi à identifier à un moment T. Je ressens beaucoup ça, en fait, dans mon travail d'écriture. Ce moment d'illumination où, finalement, ça ne vient pas de moi, mais il y a un moment où, ça y est, je comprends ce qui bloque.
Alors, pour suivre, deux questions en une, puisque vous avez déjà commencé à répondre à la première partie de la question, vos relations avec vos pères auteurs, et puis celles que vous avez avec vos lectrices et lecteurs. Et qui compose votre lectorat, Solène Chartier ?
Pour commencer avec les autres auteurs, alors j'ai choisi moi d'être auto-éditée. Et c'est vrai qu'autour de moi, dans mes réseaux, j'échange beaucoup avec d'autres auteurs auto-édités. Il y a une vraie bienveillance dans l'auto-édition de la part des auteurs, de la part des libraires aussi qui acceptent les auto-édités ou qui, voire, se sont spécialisés. D'ailleurs, donc, dans tous les professionnels du livre autour. Et donc, parmi les auteurs, il y a une vraie bienveillance, des vrais moments de conseil, d'échange et de soutien. Donc ça se traduit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je suis connectée avec beaucoup d'auteurs et autrices. Et en salon aussi, donc plus récemment, j'ai fait des salons où j'étais vraiment ravie de rencontrer enfin les auteurs avec qui j'échange depuis des années. Donc pour les auteurs, il y a vraiment une vraie bienveillance dans les auteurs, qu'ils soient édités ou pas d'ailleurs, aujourd'hui. Et pour mes lecteurs, en fait la même chose, il y a une vraie bienveillance aussi de la part des lecteurs et finalement une vraie... motivation qui vient d'eux aussi. Donc je le disais un peu avec Amalia, mais alors dans mon lectorat est assez divers et varié, puisque du coup je commence avec La Princesse et les Papillons. Mes plus jeunes lecteurs, du coup c'est des lecteurs où les parents leur font la lecture, donc ils ont 5 ans et moins. Les plus jeunes lecteurs autonomes ont 7 ans. Et puis après, pour la Laïcha, finalement, les plus jeunes lecteurs ont 9 ans, mais les plus âgés ont plus de 90 ans. Donc j'ai vraiment un lectorat très varié. Et c'est ce qui se ressent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai des lecteurs ados et jeunes adultes qui viennent, des lecteurs adultes aussi. Et c'est vraiment super chouette parce que je fais mon possible, en tout cas, pour faire naître cette relation et pour qu'elle vive. Avec Amalia, par exemple, c'était très intéressant parce que j'ai sorti Amalia, c'était mon premier livre, donc en 2020. Et j'ai eu beaucoup de lectures enjouées de lecteurs, mais qui étaient frustrés du trop peu. Et du coup, en fait, c'était vraiment super intéressant tous ces retours parce que je m'en suis nourrie pour écrire Yuna. Pour écrire Yuna, moi, j'ai dit à mes bêta lectrices et mes alpha lectrices, les lecteurs en ont eu trop peu. Je veux pas que ça soit le cas à nouveau pour Yuna. Donc, on va faire en sorte que ce soit pas le cas. Et justement, pour Yuna, j'ai pas eu ce retour-là. Donc, je suis super contente. Mes lecteurs m'aident en fait et me nourrissent dans mon processus d'écriture, quoi, tout simplement.
Alors, où est-ce qu'on peut vous voir ? Vous avez parler des salons où vous vous déplacez. Est-ce que vous êtes allé au salon du livre du Mans? Est-ce qu'on a des chances de vous y voir cette année ou pas? Est-ce que vous avez des signaux de la part de l'organisation? Alors, dites-nous un peu, voilà, quels sont les lieux en matière de salon du livre ou d'autres où on va vous voir?
Alors, je serais ravie d'aller en salon du livre au Mans, mais pas de signaux de ce côté-là. Par contre, des salons qui se profilent sur la deuxième partie de l'année, notamment à Écomois ou au Mans, effectivement, mais en salon du jeu, le salon Ludigorque en septembre. Donc, si tout va bien, j'y serai. Mais quoi qu'il arrive, je vous invite à suivre mes actualités sur mon site internet ou mon Facebook, mon Instagram, parce que c'est là où vraiment je poste justement tous les lieux où je vais en dédicace. Pareil, je serai sûrement à La Flèche aussi en fin d'année. Enfin, je me balade.
En tous les cas, vous êtes bien connu sur le territoire. J'ai cru savoir que vous avez fait vos études sur ce territoire-là. Vous êtes allé en collège du côté du Lude et au lycée, vous étiez à La Flèche. Ouais. Voilà, mes fiches sont bonnes et mes sources sont bonnes également. Alors pour terminer, Solène Chartier, quelque chose me dit, et c'est mon petit doigt hein, qui me dit qu'il y a de fortes chances qu'on vous retrouvera ici même sur le territoire de la communauté de communes Sud-Sarthe pour partir en livre en 2024.
Ben, j'espère bien, avec grand plaisir.
Elle est prudente. Mais moi, j'ai un début d'info, ce sera confirmé en temps et en heure. Mais voilà, il y a de fortes chances qu'on la retrouve. En tous les cas, ça a été un plaisir d'avoir échangé avec vous sur Radio Prévert. On doit s'arrêter parce que là, on s'approche de la trentaine de minutes d'entretien. Mais il y en aura d'autres forcément. C'était un plaisir de vous avoir interrogé sur vos livres. Et vous nous avez dit que le tout prochain... Ça va pas tarder, ce sera
2024.
Et d'ici là, n'arrêtez pas, continuez à travailler. Je suis sûr que vos rêves vont vous donner des pistes pour pouvoir trouver d'autres héroïnes et puis des héros également. Hein.
Certainement, bah, plaisir partagé, merci beaucoup.
Merci à vous, Solène Chartier, invitée de Radio Prévert. Ces livres sont en auto-édition, donc on peut les trouver sur les différentes plateformes.
Sur Amazon ou sur mon site internet, donc mon site leshistoiresdesolène.fr.
Un podcast à retrouver sur radioprévert.fr. Solène Chartier était sur la radio dans le cadre de Partir en livre avec la communauté de communes Sud-Sarthe.